enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Je vous rappelle ce texte de Matthieu 16, 18, où Jésus, s'adressant à Pierre, lui dit « Et moi, je dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Et nous allons voir à quoi est comparé dans les Écritures, par différentes allégories ou images, l'église de Jésus-Christ. En résumé, je rappelle que dans l'esprit de beaucoup de personnes, l'église se résume à un bâtiment. Lorsque vous parlez aux gens d'église, eh bien, ils voient un bâtiment. Cependant, je suis heureux de vous annoncer que l'église, c'est vous et c'est moi. Nous sommes les pierres vivantes. L'église de Jésus-Christ en Afrique se réunit sous des baobabs. Mais elle est l'église de Jésus-Christ. En Chine, elle se réunit en cachette dans les maisons parce que cette église de Jésus-Christ faite de pierres vivantes est persécutée et n'a pas le droit d'exister officiellement, ce qui ne l'empêchera jamais d'exister officieusement. Elle est belle, elle est forte et elle est de plus en plus puissante en Chine. Jésus est venu bâtir son église. Le bâtisseur, ce n'est pas vous et moi, ce n'est pas Pierre. Le bâtisseur, c'est Jésus. Cependant, Jésus a choisi de bâtir son église avec Pierre. Et Pierre sera le premier, après le départ du Seigneur, qui, eh bien, visité par le Saint-Esprit, prêchera l'évangile aux Juifs. Et là, eh bien, plus de 3000 se donneront en un seul jour. Mais Jésus a continué à bâtir son église au travers des siècles, avec différents hommes, différentes femmes, dont nous faisons partie. J'aimerais voir différentes allégories utilisées pour parler de l'Église dans la Bible. Et chacune de ces allégories nous aidera également à comprendre quel est le rôle et la fonction de l'Église. Les gens parlent légèrement de l'Église. Très souvent, on critique même l'Église, mais on oublie qu'on est partie intégrante de cette dernière. Et que lorsque je critique l'Église, en fait, je commence à me critiquer moi-même. Je suis une pierre vivante faisant partie de cette Église. La Bible nous parle de l'Église comme d'un corps. Écoutez bien, Éphésiens 1, 22 et 23. Dieu a mis toutes choses sous les pieds du Christ et il l'a donné à l'Église comme chef suprême. L'Église est le corps du Christ, c'est en elle que le Christ est pleinement présent, lui qui remplit tout l'univers. Non pas seulement dans les bâtiments, c'est en elle, l'Église de Jésus-Christ, qu'il est pleinement présent. L'apôtre Paul va développer cette pensée de l'Église corps au travers d'un Corinthiens chapitre 12. Et là, il nous sera dit que finalement, nous sommes différents membres et plusieurs membres, mais nous ne formons qu'un seul corps. En fait, cela nous amène également à accepter toutes nos différences. Mon frère, ma sœur, c'est pas parce que tu es une main que tu peux rejeter le pied. Et c'est pas parce que tu es un pied que tu peux rejeter le nez. C'est pas parce qu'il te ressemble pas et qu'il n'a pas la même fonction que toi que pour autant il n'a pas sa place. Nous avons tous notre place dans le corps. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu te réjouis d'avoir des mains? Eh bien, réjouissez-vous parce qu'au milieu de nous, il y a des mains. Les mains, est-ce que vous vous réjouissez d'avoir des pieds? Eh bien, réjouissez-vous parce qu'au milieu de vous, il y a des pieds. Nous sommes différents, mais nous devons accepter nos différences, sachant que le corps est fait de différentes parties. Voyez la réaction des disciples. Lorsqu'un homme chassera les démons au nom de Jésus, ailleurs qu'avec eux, ils viendront vers Jésus et ils lui diront, il y a là quelqu'un qui chasse les démons comme nous, il faut l'arrêter parce qu'il n'est pas avec nous. Et Jésus dira, qui n'est pas contre nous est pour nous. Acceptez que mon frère est différent, acceptez qu'il chante autrement, acceptez qu'il aime d'autres choses que moi. L'Église de Jésus-Christ est un corps dans lequel il y a de la tolérance. Vous connaissez le mot tolérance? Tolérer les différences. Moi, je bénis Dieu de ce que vous n'êtes pas tous comme moi. Mais nous sommes tous complémentaires les uns des autres et nous avons besoin les uns des autres pour fonctionner. Chacun est à sa place. Je suis heureux que la main soit au bout du bras et que ce soit pas le pied. Le principe de la tolérance doit être compris dans l'Église, évidemment dans le cadre moral que Dieu a fixé, sa parole. Il ne s'agit pas de tolérer le péché, il s'agit de tolérer le frère, il s'agit de tolérer les différences, il s'agit de tolérer, eh bien peut-être sa manière de vivre son culte à lui, être capable de gérer les différences et de les accepter. C'est ça la grandeur du corps de Christ. Mon frère qui dit corps, dit également une organisation extraordinaire. Voyez comme le corps est organisé. Est-ce que vous n'avez jamais réfléchi quant à ce que nous sommes ? C'est miraculeux. Il n'y a pas deux gens, nous sommes uniques. Cependant, le corps n'est rien si la vie ne circule pas en lui. Et frères et sœurs, le corps nous rappelle, eh bien, que nous devons être reliés à la vie. Rappelez-vous ce que Dieu fera. Il va créer Adam. Il va donc créer un corps tiré de la terre. Mais ce corps tiré de la terre va rester inerte. Il fallait autre chose. Dieu va souffler le souffle de vie en lui. Le roi de Dieu, l'esprit de Dieu vint en lui et il nous a dit, et il devint une âme vivante. L'Église de Jésus-Christ est un corps. Mais elle est un corps vivant dans lequel est nécessaire la vie de l'esprit. C'est la vie de l'esprit, c'est le roi de Dieu qui rend ce corps vivant. Sinon, nous serions une organisation. Un jour, quelqu'un disait d'une église, elle est tellement bien organisée que si Dieu venait à mourir, on ne remarquerait même pas qu'il n'est plus là. Parce que trop souvent, l'église, c'est un système érigé par des hommes. C'est une grande machine que l'on fait fonctionner et qui avance. Mais mon frère, l'Église de Jésus-Christ, c'est un corps dans lequel il y a la vie. Et cette vie procède de l'Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit, tu as besoin du Saint-Esprit, et nous avons ensemble besoin du Saint-Esprit. Lorsque Jésus était sur la terre, il vivait, vous êtes d'accord avec moi, dans un corps. Maintenant, l'Église est devenue son corps. En fait, il vit dans l'Église, et l'Église manifeste Jésus-Christ comme étant son corps. Et c'est pourquoi nous sommes appelés à lui devenir semblables. Jésus dira, c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres qu'ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Jésus n'est plus présent physiquement. Cependant, nous sommes son corps dans lequel il se manifeste et au travers duquel le monde doit voir Jésus. Voit-on Jésus au travers de vous ? Nous sommes ce corps par lequel Jésus-Christ s'exprime dans le monde. Et en tant que corps de Christ, nous avons un message à véhiculer et à apporter. Qui est la tête du corps ? Colossiens 1, 18. Il est la tête du corps qui est l'Église. C'est en lui que commence la vie nouvelle. Il est le Fils premier-né, le premier à avoir été ramené d'entre les morts, afin d'avoir en tout le premier rang. Il est la tête. Et il est la tête de son église avec un grand E. Et lui sait qu'une partie de son église, eh bien, fait partie de la jambe et l'autre partie du bras. Mais il sait que c'est l'ensemble des membres qui forment le corps. Nous ne sommes donc que complets avec les autres. L'église de Jésus-Christ n'est que complète avec l'ensemble de ceux qui croient en Jésus, même quand ils sont différents. Je vais aller plus loin. Lorsqu'on parle du corps, on parle également de santé, n'est-ce pas ? Le corps doit se nourrir. L'Église est là et a besoin de se nourrir. Jésus est le pain vivant. Frères et sœurs, il est nécessaire que l'Église réalise qu'elle est un corps et qu'elle a besoin de manger équilibré. La parole de Dieu est équilibrée. Mais vous avez certains chrétiens qui ne le sont plus aujourd'hui. Vous avez des pierres vivantes déséquilibrées parce qu'elles ne se nourrissent que toujours de la même chose. Mais l'Église de Jésus-Christ apprend à se nourrir de manière équilibrée. Elle sait venir se nourrir au salut, au pardon, à la guérison. Elle sait venir se nourrir à l'espérance, à l'amour. Elle sait venir se nourrir aux différents repas que Dieu nous propose. Chaque partie de ce qu'il nous donne est équilibrée. Certains sont déséquilibrés, tout simplement. Ils lisent même pas la Bible, ils lisent tout le temps des bouquins. Et voyez-vous, un bouquin ne traite que d'un sujet. Et quand vous lisez que les mêmes auteurs qui traitent souvent des mêmes sujets, à la fin, vous avez une vision de ce qu'est la parole de Dieu, de ce qu'est l'Église et de ce que devrait être la vie chrétienne complètement déséquilibrée. L'Église est un corps. Le corps doit se nourrir de manière équilibrée. Je vais plus loin. Un corps qui se nourrit normalement est un corps qui prend des forces. Vous êtes d'accord ? Un corps en bonne santé, c'est un corps qui a de l'activité. Une église en bonne santé est une église active. Elle n'est pas tombée dans l'activisme, mais elle œuvre pour Jésus. J'entends la parole, je comprends la parole et je mets la parole en pratique. Je réalise donc que cette parole va devoir être mise en pratique dans tous les domaines de ma vie, et ceci chaque heure et chaque jour. Sinon, à force d'enseignement et de recevoir, nous allons devenir énormes. Nous sommes appelés à être un corps en marche. Nous sommes appelés à évangéliser. Nous sommes appelés à sortir de nos murs. Je vous l'ai dit la dernière fois, l'église n'est pas faite pour l'intérieur des murs. L'église est faite comme le sel pour le monde dans lequel nous sommes. Mon frère, ma sœur, souvent nous disons, nous voulons voir des guérisons. Moi aussi. Pourrais-je vous rappeler quelque chose ? Jésus a donné la guérison divine d'abord dans le cadre de l'évangélisation. Non pas que la guérison ne soit pas pour le corps, non pas que la guérison ne soit pas pour l'église, au contraire. Cependant, rappelez-vous lorsqu'il est dit, Marc 16, celui qui croit, qui sera baptisé, sera sauvé. Il est dit ensuite, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. S'ils boivent quelques breuvages mortels ou s'ils saisissent quelques serpents, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades guériront. Dans quel contexte Jésus dit-il cela ? Il le dit dans le contexte où cette phrase magnifique qui fait partie de notre grande mission apparaît. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Nous étions à Ebingen l'autre jour en Allemagne. C'est un endroit où le pape Jean a commencé à apporter le plein évangile il y a quelques 30 ans de cela. J'étais témoin lorsque les gens disaient « Tu es le premier à nous avoir apporté le plein évangile. Il va prier pour les malades. » Et il était arrivé un temps où il devait cacher sa voiture dans le garage de la personne qui l'accueillait parce que lorsque les gens repéraient la voiture, des fils commençaient à se former pour recevoir l'imposition des mains et être guéris. Nous étions à Endingen la semaine dernière et il a eu une joie que je comprends. Il a revu quelqu'un dont je vous donne courtement le récit. Sa maman avait un cancer, avait déjà vécu des interventions chirurgicales. On lui avait implanté des parties en plastique dans le bas-ventre. Et le cancer avait continué, c'est comme cela. Et bien que désespérée, elle est arrivée. Il a prié pour elle, cette femme ne connaissait pas Jésus, et elle a été guérie. Quelques mois plus tard, elle est enceinte. Immédiatement, on lui a dit qu'il fallait avorter l'enfant. Elle ne pourrait jamais le mettre au monde, d'abord, à cause de tout ce qui a été mis dans le corps. Deuxièmement, l'enfant ne pourrait jamais grandir normalement. Elle appelle le frère Jean, il prie pour elle, il lui donne le conseil de regarder sur Dieu. Elle regarde sur Dieu, elle garde le bébé. Elle a commencé à vivre des pressions terribles. Les médecins disaient, vous allez mettre au monde un monstre et vous êtes responsable. Elle arrive au bout de sa grossesse, à quelques semaines, on lui fait une échographie. Et là, on se rend compte à l'échographie que la circonférence de la tête du bébé était de 8 cm. C'est-à-dire que c'était un bébé anormal, totalement anormal. Et bien sûr, les chirurgiens lui ont dit, vous êtes fière maintenant, vous êtes contente maintenant, est-ce que celui qui vous a donné ce conseil est prêt à s'occuper de cet enfant, etc. Une pression terrible. Mais souvenez-vous, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et un non-doute de celles que l'on ne voit pas encore dans la mesure où on est dans l'obéissance à la parole de Dieu, ce qu'ils étaient. Il fait le voyage, va prier avec elle. 3 semaines après, le bébé vient au monde, tout à fait normal. 2 ans après, la maman rappelle, frère Jean, la petite fille que j'ai reçue a maintenant un cancer du sang. Elle a une leucémie. Dieu ne m'a pas donné cette petite fille pour qu'elle meure d'une leucémie. Et elle retourne, prie avec l'enfant. Elle a été totalement guérie de la leucémie. Et la semaine dernière, pour la première fois depuis des années, il a revu cette jeune femme de 27 ans. Elle est venue chez lui. Elle lui a mis la tête là sur la poitrine et elle lui a dit, je sais tout. Maman m'a tout expliqué. Mon frère, ma sœur, veux-tu vivre cela ? On était en Serbie, les gens ne connaissaient rien de rien, mais les miracles avaient lieu les uns après les autres. Dans l'évangélisation, un corps en bonne santé est un corps qui travaille, est un corps qui a de l'activité. C'est un corps qui se développe parce qu'il est nourri, mais cette nourriture doit se transformer à quelque part en énergie. Êtes-vous prêt à travailler? Je vais aller plus loin. L'Église est également considérée dans la parole comme une épouse. 2 Corinthiens 11, chapitre, verset 2, il est dit « Car je suis jaloux à votre sujet d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter au Christ comme une vierge. » Mon frère, ma sœur, l'Église est considérée comme une épouse. Mais voyez-vous, en Israël, la coutume juive voulait que l'on se nomme époux et épouse avant le mariage, dès que l'on était fiancé. On n'était donc pas encore marié que déjà, on disait qu'il est époux et épouse. Et c'est ce qui vous explique dans Matthieu 18:1, verset 18, que Marie et Joseph étaient considérés comme époux et épouse alors qu'ils n'étaient que fiancés. Pourquoi font-ils cela? Tout simplement pour montrer l'importance de s'unir à quelqu'un et la détermination de rester fidèle à l'alliance qu'on a contractée, même si je ne suis pas encore marié. Nous sommes dans une société dont le flirt est l'apanage. Et aujourd'hui, quand je dis le flirt, c'est finir au lit. Il y a 60 ans. Mais rien que... Et puis ensuite, ça a été les années où la télévision est apparue et on voyait cela constamment. Mais dans la réalité, les acteurs ne le faisaient pas. Et puis c'est allé plus loin, est arrivé mai 68, et là c'était la libération de la débauche. Et aujourd'hui, quand deux jeunes se fréquentent, ils n'ont parfois même pas encore fini de se connaître depuis 2 heures que déjà ils couchent ensemble. Mon frère, ma sœur, et vous les jeunes qui êtes là, rappelez-vous que la parole de Dieu est claire. Lorsque je fréquente, ma fréquentation doit être sérieuse. Je n'ai pas le droit de me moquer d'une fille, ni le droit de me moquer d'un garçon. Que dans certaines situations exceptionnelles, il vaille mieux rompre, je peux le comprendre. Cependant, l'engagement, lui, dès le départ, doit être sérieux. Dès le départ, rien ne doit être fait à la légère. Nous sommes l'épouse de Christ. L'Église doit être pure et sans tache. Lorsque vous pensez à épouse, à quoi pensez-vous? Paul fait un parallèle entre l'Église et Jésus-Christ dans Éphésiens 5, 23, 30. Mais voyez-vous, lorsque je sais que je suis fiancé, je sais qu'au bout, il y a un mariage. Moi, je sais, nous avons été 4 ans fiancés. Et dans ces 4 ans, ça a été une bonne période de formation. Et voilà ce que dit Jean dans l'Apocalypse. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se vêtir de fin lin éclatant et pur. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'Église n'est pas seulement un corps qui se nourrit et qui travaille, elle n'est pas seulement la manifestation de Christ sur la terre, corps de Jésus, elle est également une épouse qui se prépare au mariage. Et un jour nous partirons et nous vivrons les noces de l'agneau. Est-ce que vous aimez la noce? Moi j'aime la noce. Eh bien je me réjouis parce que devant moi il y a une fête extraordinaire dans laquelle je serai uni pour toujours à mon Sauveur. Rappelez-vous également que lorsque nous disons que nous sommes l'épouse de Jésus-Christ, ça signifie que nos engagements avec lui sont sérieux individuellement. Nous sommes des pierres vivantes, frères. Ces pierres vivantes que nous formons, frères et sœurs, eh bien, lorsqu'elles retournent dans le passé et dans le péché, sont considérées par l'Écriture comme adultères. Dieu parle à son peuple d'Israël et lui dit « adultère ». Adultère pourquoi? Parce qu'ils avaient, eh bien, à quelque part, trompé Dieu dans les engagements qu'ils avaient pris. Lorsqu'en tant que pierre vivante, je m'engage dans les eaux du baptême et que je reçois Jésus, ça signifie en d'autres mots, je vais être fidèle à mon engagement. L'Église est donc comme une fiancée qui s'engage à être fidèle et c'est vrai individuellement. Le collectif n'est que le résultat de l'individuel, vous êtes d'accord? Il n'y a pas de collectif si les individus ne sont pas réunis. Et l'on ne peut pas accuser le collectif d'être coupable si chacun des individus qui composent ce collectif ne respecte pas son engagement. Mon frère, ma sœur, qui dit une épouse symbolise l'expression de l'amour. Mon frère, ma sœur, quand tu es amoureux ou amoureuse, tu te prépares pour le rencontrer, tu te fais belle. Mes frères, êtes-vous pas heureux que vos épouses se soient préparées ce matin avant de venir? Non, non, nous sommes, vous êtes, je me suis préparé pour le rencontrer. Lorsque tu es amoureux, tu te prépares. Je vais le rencontrer. Une épouse, eh bien, se fait belle. Elle aime dialoguer, elle aime parler avec lui. Pouvez-vous me dire, je suis amoureux de Jésus sans lui parler par la prière ? Pouvez-vous me dire, oh, moi j'aime Dieu, j'aime Dieu de tout mon cœur, sans lire les lettres qu'il vous adresse ? Comment puis-je dire, j'aime Dieu si la lettre qu'il m'envoie ne m'intéresse pas ? Mon frère, ma sœur, tu as une lettre extraordinaire. Et Dieu, lui, il n'a pas lésiné sur les moyens, il t'en a écrit des pages, hein ? Mais dites-la, l'Église est donc une épouse qui se prépare, qui se fait belle. C'est là aussi le rôle de l'Église. Et c'est là aussi le rôle de l'Église locale, de préparer les uns et les autres à la rencontre de Jésus-Christ. L'Église se prépare pour cette rencontre et se fait belle par amour et non pas par légalisme. Eh bien moi je veux tout faire pour que nous, Église de Jésus-Christ, nous lui plaisions. Oh que nous lui plaisions. On va aller un peu plus loin ensemble. L'Église est donc cette fiancée qui va rencontrer son époux. Dans Éphésiens 5, 27, il est dit « Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, sans les taches du péché, ni les rides des cœurs brisés, des visages affligés par une vie de débauche, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » L'église, c'est également une famille. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Nous avons un même Père. Et lorsque nous prions enseignés par notre frère Jésus, nous disons ensemble, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. À plusieurs reprises, lorsque vous regardez la parole de Dieu, il est dit que nous sommes frères. Dans Actes 21, 17, il est dit, à notre arrivée à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Actes 28, nous avons trouvé des frères qui nous prièrent de rester 7 jours. Matthieu 23, 8, mais vous ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Mon frère, ma sœur, une famille, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie une identité, ça signifie des racines, ça rappelle un lieu de partage, un lieu de joie, ça rappelle un lieu où on fait des projets, ça rappelle un lieu où on aime retourner. Un croyant qui s'éloigne de la maison doit recevoir une nostalgie en lui, il aime retourner chez lui. Mais la maison c'est aussi un lieu où l'on est formé et transformé. Est-ce que tout se passe parfaitement chez vous ? C'est un lieu où parfois il y a des conflits. Enfin, chez vous, ça doit être merveilleux. Nous, on n'arrive pas toujours, hein. Parfois, ça chauffe. C'est un lieu où parfois on a des opinions différentes, des avis différents. Mais pour autant, on ne se sépare pas. On reste frère, on reste sœur et on s'aime. On apprend à progresser ensemble. C'est un lieu où parfois il y a des corrections. Dieu dit que celui qu'il aime, il le corrige. La famille de Dieu, c'est un lieu où il peut y avoir des corrections et où la correction doit être acceptée. Une famille signifie aussi la correction. Dieu a-t-il le droit de corriger dans sa famille ? A-t-on le droit d'être différent ou d'avoir un différent avec vous sans que pour autant vous ne laissiez tomber la famille de Dieu ? Mais, dit Paul à Timothée, si je tarde, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Moïse, il est dit de lui dans Hébreux, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage à ce qui serait annoncé. Mais Christ l'est comme un fils sur sa maison. Nous sommes sa maison. Si nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance et l'espérance dont nous nous glorifions. Le temple de Jérusalem, il était appelé la maison de Dieu. Et il y avait un sacrificateur qui servait l'Éternel, qui offrait des sacrifices pour le pardon des péchés. Savez-vous qui est notre souverain sacrificateur dans la maison de Dieu que nous formons en tant qu'Église ? C'est Jésus. Et c'est lui maintenant notre avocat auprès du Père. Une maison signifie un endroit où je suis à l'abri, un endroit où je suis protégé. Une maison signifie un repère. Une maison signifie énormément de choses. Je ne vais pas développer maintenant, nous n'avons plus le temps. Mais j'aimerais te dire, l'Église est une maison. Une maison dans laquelle je peux exprimer mes peines, mes souffrances, mes incompréhensions. Une maison dans laquelle, eh bien, je peux être à l'abri de la tempête du péché qui sévit à l'extérieur, des pressions que je peux vivre sur mon lieu de travail. L'Église est une maison. Elle n'est pas seulement une maison, eh bien, elle est également un peuple. Tite 2, 14, il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Savez-vous qu'il y a un parallèle extraordinaire entre l'Église, peuple de Dieu, et Israël, peuple de Dieu également. Israël est le peuple visible de Dieu sur la terre. Nous sommes le peuple invisible de Dieu sur la terre, quoique visible par l'expression de l'Église locale. Israël ressemble étrangement à ce que nous sommes. Israël tantôt était là, fervent avec son Dieu, le servant, et tantôt ils retournaient vers leurs idoles. Tantôt ils avaient la foi, ils voyaient Dieu à l'œuvre, et à peine avaient-ils vu Dieu à l'œuvre, la mer rouge venait de s'ouvrir, ils venaient de la traverser, que déjà à Mara ils murmuraient et se lamentaient. Et quand je regarde Israël, je me dis, mais le peuple de Dieu est le même. Dieu intervient, Dieu fait des miracles, Dieu le bénit, il suffit d'une contrariété, et le peuple murmure. Nous ne sommes pas meilleurs qu'Israël. Nous avons besoin de la grâce. Israël, un peuple dispersé par toute la terre, à qui Dieu fait une promesse. Je les rassemblerai à nouveau dans leur pays. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui au travers de l'exode des Juifs du monde entier, je parle d'exode, c'est peut-être un terme fort, mais au travers du retour des Juifs du monde entier, qui à quelque part ressemble à un exode. Et j'ai parlé avec des Juifs en Israël, des gens qui étaient établis en France depuis des années, une jeune femme qui avait fait ses études en France, qui réussissait une carrière ici, elle me disait, c'est comme si à l'intérieur de moi, il y a un instinct qui me poussait à retourner. Vous savez, les oiseaux migrateurs, ils retournent. Et elle me disait, c'est un instinct qui m'a attiré, c'est comme si j'étais appelé, c'est comme si je devais rentrer. Elle n'était pas particulièrement croyante, pas du tout. Il y a comme quelque chose au fond de leurs entrailles qui les appelle et qui les fait maintenant revenir de toutes les nations, de Russie, d'Éthiopie, des États-Unis, de différents endroits. Ils retournent. Frères et sœurs, l'Église comme Israël est dispersée sur toute la surface de la terre. Mais au son de la trompette, elle se rassemblera et elle partira à la rencontre de son époux. Est-ce que tu peux réaliser cela? Je ne sais pas si on peut le réaliser honnêtement, je ne sais pas si je le peux, mais je sais une chose, ça va être glorieux. Qui dit un peuple, dit une citoyenneté, dit une nation, dit un royaume, dit une fierté, dit une appartenance. Est-ce que tu es fier d'être chrétien? Aujourd'hui, je vois beaucoup de chrétiens qui marchent la tête baissée, comme si c'était une honte d'être chrétien. Je vois beaucoup de chrétiens qui ne parlent pas de Jésus. C'est comme s'ils avaient honte de leur roi. Il y avait un peuple qui a honte de son roi. C'est dramatique. Ils ont honte. Il y a une telle pression aujourd'hui lorsque tu dis que tu es chrétien, tu passes pour fou, pour retardé, pour tout ce que tu veux. Mais je suis fier d'appartenir à cette nation. Je suis français sur la terre. Mais sur la terre, je suis en même temps citoyen du ciel. J'ai un royaume, le royaume de Dieu. J'ai un roi, il s'appelle Jésus. Et j'ai une destinée glorieuse de laquelle je suis fier. Je peux lever mes regards. Mes amis, vous appartenez à un même royaume. Nous sommes concitoyens les uns des autres. Regardez ce que la Bible nous dit. Vous, au contraire. D'abord dans 1 Pierre. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Avant, nous n'étions pas son peuple. Maintenant, nous avons été greffés sur l'olivier franc. Israël est toujours son peuple. Dans certains lieux, et je mets le point là-dessus, on enseigne que l'Église a remplacé Israël. C'est faux. L'Église n'a jamais remplacé Israël. Israël restera le peuple de Dieu tant que la terre sera la terre. Mais nous avons été greffés sur l'olivier franc. Et nous sommes maintenant devenus, nous qui n'étions pas un peuple, également le peuple de Dieu. Et le jour où Israël reconnaîtra son roi, nous serons un seul peuple avec eux. Mon frère, ma sœur, la théologie de remplacement est ce qui a mené, eh bien, les Juifs à être persécutés et exécutés dans des camps de concentration. Et il faut savoir que cette théologie du remplacement est encore aujourd'hui active. Et beaucoup de chrétiens, eh bien, vous diront que non, les Juifs ne sont plus le peuple de Dieu, c'est nous le peuple de Dieu. Donc les Juifs, on peut les mettre de côté, c'est faux. Et je m'élève contre cela. Ils sont un peuple et nous avons le même Dieu. 1 Pierre 2,9, vous au contraire. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Pourquoi sommes-nous une nation sainte? Pourquoi sommes-nous un peuple acquis, afin, il y a un objectif, que vous annonciez les vertus, les grâces de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. L'Église est un peuple qui parle d'un royaume, c'est le royaume de Dieu.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.